FM, une émission présentée par Gilles Frémont sur Radio Immo.
Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous revoir à nouveau pour cette émission 1000 millième, l'émission des syndics de copropriété, des gestionnaires de copropriété de l'ANGC. Ça fait 7 ans hein, qu'on a cette émission et aujourd'hui je reçois à nouveau deux invités, deux sociologues. On va reparler à nouveau de sociologie des syndics de copropriété puisqu'on a un tome 2 qui est sorti et donc je reçois Anne-Claire Davy. Bonjour Anne-Claire.
Bonjour.
Alors vous êtes chargée d'études à l'Institut Paris Région, département Habitat et Société. Et Gaëtan Brisepierre.
Bonjour Gilles, merci de nous accueillir pour parler de cette étude.
Eh ben bonjour Gaëtan, je vous reçois une deuxième fois. Vous êtes venu pour le tome 1, là vous venez pour le tome 2, je vais en parler. Vous êtes sociologue spécialisé transition énergétique. Et donc effectivement, on avait parlé du tome 1. D'un rapport que vous avez fait, sociologique, sur l'étude du groupe professionnel des syndics, une mission qui avait été très appréciée, votre rapport très, comme je vous l'avais dit, fait référence, on continue d'en parler beaucoup, et là vous sortez la suite de ce rapport, j'appelle ça le tome 2, hein, familièrement, mais c'est la suite de ce rapport où là, vous focalisez plus sur les syndics franciliens, donc d'Île-de-France. Le titre de ce rapport, de ce deuxième tome, s'appelle « Être syndic en Île-de-France, pratique des cabinets et implication dans les politiques publiques locales ». Alors, Gaëtan, première question rapidement pour cadrer un peu à titre d'intro. Quel est l'objet précisément de ce tome 2 par rapport au tome 1 et quelle a été votre méthodologie de travail, enquête, consultation, sondage?
Oui, on sort dans quelques semaines un nouvel opus de 274 pages. Voilà, c'est pour donner envie de le lire.
Quand on aime, on ne compte pas.
Exactement. Donc l'objectif, finalement, c'est de mieux connaître les syndics. On l'avait fait à l'échelle nationale. Et aussi de comprendre les ressorts de leur implication dans les politiques publiques. Hein. C'est un projet de recherche qui est financé par un organisme public qui est le PUCA. Et contrairement à la première phase où on était sur les représentants nationaux, là, on est descendu à l'échelle des cabinets. Hein. Et le cabinet, c'est l'unité de base, finalement, de la relation copropriétaire, de la relation au territoire, du positionnement dans le groupe professionnel. Hein, donc on a voulu aller voir voilà, dans les cabinets comment ça s'exerçait au quotidien. Et on l'a fait forcément sur une région, hein, l'Île-de-France, qui est le premier marché de l'administration de biens. Mais c'est aussi une région où les pouvoirs publics ont initié, expérimenté beaucoup de choses. Enfin, il n'y a qu'à penser à Coach Copro, par exemple, qui a été conçu pour Paris et qui finalement a été déployé nationalement. Donc c'était intéressant de regarder ça. Et avec une double approche méthodologique, donc une approche statistique où l'Institut Paris Région a fait une exploitation du registre national d'immatriculation des copropriétés. Donc c'est pas forcément évident parce qu'à la base c'est un fichier administratif, c'est pas une base de données de recherche. Mais voilà, ils l'ont utilisé pour essayer de voir un peu comment se répartissaient géographiquement les portefeuilles. Et puis en parallèle, on a mené donc une enquête de terrain auprès d'une vingtaine de cabinets franciliens. On a plutôt interrogé des managers, donc des gérants, des directeurs copropriétés, et on l'a fait auprès d'une diversité de types de cabinets, avec notamment un critère qui était important pour nous, c'était d'avoir différents types d'implications dans les politiques publiques. Certains étaient plutôt réputés pour leur implication dans la rénovation énergétique, d'autres étaient plutôt spécialisés sur le redressement de copro en difficulté. Et puis certains n'avaient pas d'implication particulière.
Pas d'appétence
voilà.
Particulière.
Voilà, sur ces sujets-là. Et on voulait vraiment varier pour avoir le panorama le plus large possible du rapport à ces politiques.
Et effectivement, c'est ce dont nous allons parler, leur implication dans la rénovation énergétique, la gestion des copropriétés en difficulté, les différentes stratégies de développement de portefeuille. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Anne-Claire, quelques éléments statistiques à nous donner sur les syndics franciliens.
Oui, alors on a, comme l'a dit Gaëtan, pris le parti d'exploiter le registre national des copropriétés, alors avec la partie qui était renseigner, puisque toute la base ne permet pas toujours d'identifier le gestionnaire, mais sur la partie qu'on était capable d'exploiter, on avait un grand nombre de syndics. On s'est rendu compte qu'on avait un paysage très éclaté, comme vous l'avez dit. On a identifié 1130 entreprises de syndics qui gèrent des copropriétés en Île-de-France, 1110 cabinets indépendants, les fameux 10 groupes que l'on connaît et qui se sont rassemblés dans l'association Pluriance, et 11 néo-entrants. Ce qui nous a frappé, c'est qu'on a un grand nombre de syndics qui ne gèrent qu'un nombre assez réduit de copropriétés, puisque la moitié des entreprises qu'on a identifiées gèrent moins de 26 copropriétés en Île-de-France, avec une part non négligeable de très petits micro-syndics, qu'on appelait micro-syndics, qui sont composés de 0 à 2 salariés et qui représentent 16% des entreprises et qui gèrent 3% des copropriétés. Donc, c'est un paysage très éclaté. On en a 37% qui gèrent de 25 à 100 copropriétés et on a seulement 13% de structures qui gèrent un portefeuille de plus de 100 copropriétés, dont 9 très très grosses qui gèrent plus de 500 copropriétés. Ce qu'on a pu regarder aussi, c'est que les cabinets indépendants restent largement dominants puisqu'ils gèrent 78% des copropriétés dont on connaissait le gestionnaire, les groupes n'en gérant que 19% et les néo-entrants 2,5%. Donc on voit vraiment que le paysage de la profession reste dominé par le cabinet indépendant qui est encore très concentré à Paris où on a 790 structures de syndics actives dont 300 cabinets exclusivement parisiens. Et donc si la capitale reste le terrain principal d'implantation des syndics, on voit aussi qu'au regard de l'ampleur du parc parisien, si on fait une sorte de ratio théorique moyen du nombre de copropriétés à gérer par un syndic, l'offre reste 2 à 3 fois moindre à Paris finalement, parce qu'il y a 2 à 3 fois plus de copros à gérer par syndic actif dans la capitale que dans le reste des territoires franciliens. Donc on voit une offre de gestion très inégale et on s'est amusé à faire un petit paramètre de regarder ce que représentent les 10 plus grandes entreprises à l'échelle des départements. Et on voit que les 10 plus grandes entreprises qui gèrent des copropriétés à Paris n'en gèrent que 20%, alors que les 10 plus grandes entreprises du Val-d'Oise, par exemple, gère près de la moitié des copropriétés. Donc il y a des indices de concentration de la profession assez différenciés au sein de la région.
Alors merci, c'est très instructif, hein, effectivement, parce que au niveau national, je crois que les groupes gèrent, c'est pas je crois, hein, c'est je le sais, gèrent à peu près 40% des copropriétés, les indépendants 60%. À Paris, effectivement, les groupes ont moins percé le phénomène de concentration qu'on avait vu et observé également au travers de nos différentes enquêtes et confirmé. C'est très intéressant. Alors justement, quelles différentes stratégies vous avez pu observer auprès de ces différentes catégories de syndics? On parle de la stratégie de développement du portefeuille, de la croissance.
Alors, on a aussi de regarder un peu les logiques d'implantation des différents segments dans les marchés franciliens. Donc, comme on l'a dit, les indépendants sont très majoritaires, mais alors vraiment à Paris, c'est 85% des copropriétés qui sont gérées par ce type de cabinet et ils sont aussi très présents dans les espaces de marché valorisés. Ce qu'on observe des stratégies des groupes, ce sont ceux qui ont les implantations les plus diversifiées parce qu'ils sont à la fois présents dans l'ouest francilien valorisé, mais on les trouve aussi mieux représentés dans les territoires de Grande Couronne, en lien avec la diffusion du collectif qui s'est déployé dans l'Île-de-France, qui s'est un peu déconcentré, et notamment leur spécialité et de leur présence un peu plus grande dans les copros récentes et neuves. Et on a les nouveaux entrants, qui bien sûr sont marginaux un peu partout, mais qui ont des stratégies un peu qu'on peut distinguer vers les territoires modestes et périurbains, en lien notamment avec une offre, on va dire, bon marché, pour ne pas dire low cost, qui cible les petites copropriétés et les copropriétés modestes. Donc ça crée un peu des... Même si vraiment il y a la dominance des cabinets indépendants et partout, ça crée des spécificités d'implantation. Quand on les a interrogés sur leur stratégie de développement, en fait, ils ont tous mis en avant la notion essentielle de proximité. Donc on a regardé et beaucoup tous mettent en avant l'impératif de proximité géographique, notamment pour des raisons de recrutement, de conditions de vie, de qualité de vie des gestionnaires, dont on a vu dans le rapport de la phase nationale à quel point la question du recrutement est importante. Donc il y a tout simplement une question logistique de proximité. Il y a aussi une question de proximité, on va dire, plus élective avec les copropriétaires, sachant que c'est un recrutement dont tous nous ont dit qu'il se fait beaucoup par bouche à oreille, par relation, qui vient encore accentuer cette logique de proximité. Et puis certains ont parlé d'une forme de proximité élective qui parfois dessert un peu la contrainte géographique avec certaines sensibilités ou spécialisations qu'ils ont acquis au cours de leur carrière professionnelle. Avec, il peut y avoir l'amoureux de la copropriété patrimoniale, celui qui s'est spécialisé dans la copropriété de grande taille parce qu'il aime les enjeux complexes. On a aussi des effets de spécialisation sur les copropriétés neuves ou, on l'a vu, sur le redressement de copropriétés en difficulté, ce qui fait d'autres logiques de déploiement des portefeuilles. Ces logiques de déploiement des portefeuilles sont quand même encadrées par la capacité à garder une taille d'équipe qui corresponde à la taille du portefeuille. Donc on voit qu'à la fois il y a des stratégies, mais elles sont toujours un peu en équilibre entre est-ce que je prends un nouvel immeuble, est-ce que je me déploie, et en même temps comment mon équipe va pouvoir suivre cette logique d'implantation. Donc on a repéré des logiques de croissance un peu différentes aussi entre les cabinets, les néo-syndics et les groupes, avec du côté des groupes plutôt un levier par rachat, ce qu'on appelle une croissance externe. Du côté des cabinets, il y a aussi une dynamique de rachat entre différentes tailles de cabinets, mais un pari de croissance interne par la réputation, par
la croissance organique.
Et on a aussi observé néanmoins une création de petits cabinets, un niveau de création de nouvelles entreprises qui viennent mettre une pression sur les prix. Du coup, on voit que la taille des portefeuilles et leur équilibre, et c'est toujours une sorte d'équilibre entre une érosion naturelle, la capacité à croître soit par qualité du service et faire venir à soi de nouvelles copropriétés, soit par rachat. Et donc, c'est toujours cette question, voilà, qui nous a un peu intéressé, que vous verrez dans le rapport. On a essayé de montrer les tensions entre déploiement, recrutement et voilà, la question de la bonne taille du portefeuille et de son rythme possible de déploiement.
Alors, c'est intéressant. Effectivement, on peut imaginer faire l'image un peu d'un aquarium avec plein de poissons qui bougent. Des gros poissons, il y en a quelques-uns dans notre microcosme. Et puis surtout, beaucoup de petits poissons de beaucoup de micro poissons. C'est bien, c'est vivant, ça bouge. Alors justement, vous parliez des gestionnaires. Vous avez pu observer, alors on parle du sujet, c'est le sujet de la pénurie de gestionnaires de copropriété, pénurie de syndic, sens large, dont on parle, c'est pas un sujet tabou du tout. Puisque là, vous êtes rentré dans les cabinets, qu'est-ce que vous avez pu entendre, observer, relever le plus récurrent sur les difficultés du métier en lui-même? On dit que c'est un métier passion. Pourtant, on a du mal à recruter, des fois on a du mal à retenir de bons gestionnaires. Est-ce que vous pouvez, avec votre œil de sociologue extérieur, nous expliquer ce petit paradoxe ?
Effectivement, le constat de la pénurie, il avait été fait dans le tome 1 par les représentants nationaux du métier. On ne revient pas vraiment dans ce tome 2 sur ces causes, la mauvaise image dans la population, le fait que dans les formations initiales, le métier de syndic ne soit pas suffisamment mis en avant, représenté. Là, dans ce tome 2, on est plutôt sur la trajectoire et de comment, finalement, on devient syndic. On voit que c'est un métier plutôt qualifié, au sens où les syndics, ils ont des bac plus 3, bac plus 5. C'est important de le dire, parce que ça les différencie notamment des agents immobiliers. Évidemment, le droit, la compétence en droit a une importance forte dans les diplômes, mais il n'y a pas que ça. Justement, c'est de plus en plus hétéroclite. Des compétences dans le bâtiment, des compétences en informatique, même commerciales, etc. Mais peut-être ce qui nous a le plus surpris, le résultat le plus marquant, c'est la place prise par les reconversions dans les recrutements. Et donc, effectivement, on avait les deux tiers de notre échantillon, donc qui n'est pas représentatif, mais ça dit quand même quelque chose, qui étaient des personnes qui avaient fait une reconversion dans ce métier de syndic en cours de carrière. Donc avec et certains pouvaient être ingénieurs à la base, pouvaient venir du bâtiment.
Des clercs de notaire, justement.
Aussi notaires, évidemment des professions du droit, avocats, huissiers, etc.
47% de profils en reconversion dans l'enquête à NGC qu'on avait faite. Ouais.
Et c'est vraiment important de s'intéresser à ces reconvertis, parce que il nous semble que c'est un des leviers principaux aujourd'hui pour faire face à cette pénurie. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand ils parlent de leur parcours, ils disent finalement, je me suis retrouvé dans ce métier par hasard. Et nous, ce qu'on a observé quand même, c'est que le métier de syndic, il se prête bien à la reconversion pour différentes raisons. Déjà, il est facile d'accès, il n'y a pas de titre réglementé, on peut monter son cabinet, il est généraliste.
Donc on peut aller... de maturité.
Voilà, il faut quand même une compétence relationnelle qu'on acquiert aussi avec les années. Et puis on peut rentrer par la petite porte et évoluer, alors dans monter les marches dans un groupe en interne, voire créer son cabinet. Et puis peut-être l'autre aspect, c'est sur le turnover, donc qui est important dans les cabinets. Donc là, ça pose la question des motivations au travail des syndics. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en syndic? On a envie de le rester. Alors, clairement, les syndics qu'on a interrogés, évoque les difficultés du métier, les horaires tardifs, et du coup, on concilie difficilement vie familiale et vie professionnelle, les relations tendues avec certains copropriétaires et qui vont plutôt en se dégradant, la réglementation qui change tout le temps. Bon, ça, c'est peut-être assez connu. Ce qui l'est moins, c'est le fait que les syndics, ils attrapent en fait vite le virus du métier. Et c'est là où on retrouve la passion, la vocation. Hein, et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a plusieurs choses. Il y a l'autonomie qu'offre ce métier, même quand on est simple gestionnaire. On va pouvoir peut-être aussi créer son propre cabinet ensuite. Il y a la stimulation, parce que les syndics, ils sont en permanence en situation d'apprentissage, de résolution de problèmes, donc on peut pas dire qu'ils s'ennuient. Il y a ces relations humaines aussi qui sont très riches. Et peut-être pour terminer, un sentiment d'utilité dans la relation au copropriétaire, la relation de service, mais aussi vis-à-vis de la société. Et d'enjeux de politique publique dont on parlera sûrement autour de la rénovation, du redressement des copros en difficulté.
Très bien, très bonne analyse. Je me voyais dans vos paroles. Alors justement, l'intérêt au métier. On parle de la rénovation énergétique. Vous constatez qu'il y a peut-être un frein ou des obstacles, ou en tout cas qu'il n'y a pas un engouement ou une rénovation énergétique massive, portée, relayée par les syndics. Comment vous l'expliquez ?
Oui. Alors, le discours général est plutôt de dire, je reprends le titre d'un article du Monde, les syndics sont frileux sur la rénovation énergétique. Nous, ce qu'on a observé, c'est une situation plutôt contrastée, et au contraire, qui a une certaine dynamique. Déjà parce qu'aujourd'hui, tous les syndics, dans leur portefeuille, sont concernés par au moins une rénovation énergétique, du fait du contexte, que je rappelle pas, des PPT, des DPE, etc., des prix de l'énergie. Mais c'est vrai que on a des syndics dont la part du portefeuille concerné peut être plus ou moins importante, et dont le niveau d'avancement des projets, est-ce qu'on en est à l'étude, aux travaux, qui varie. Donc voilà, on a du contraste. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des syndics qui sont clairement moins impliqués dans la rénovation énergétique, qui le vivent un peu comme une obligation, qui vont se montrer critiques vis-à-vis de la stratégie des pouvoirs publics sur le sujet. En général, ils vont plutôt se contenter de répondre aux demandes des copropriétaires. Ils vont attendre, on va dire, les échéances réglementaires pour faire voter les études. Et puis, c'est des syndics qui vont plutôt être dans une idée où on va mettre de l'économie d'énergie quand on fait de l'entretien. Ça, c'est en premier comportement. Mais on a aussi des syndics impliqués, qui vont être donc du coup beaucoup plus proactifs vis-à-vis des copropriétaires sur le sujet, qui vont anticiper la mise au vote des diagnostics et qui vont être clairement dans une logique de rénovation globale. Alors, qu'est-ce qui les motive là-dedans ? On a identifié trois grandes logiques. Il y a l'image de marque, parce que finalement, c'est un moyen de développer son portefeuille. Aujourd'hui, il y a des copropriétés qui recherchent des syndics expérimentés sur le sujet pour les accompagner. Il y a la question de la posture métier. Finalement, être compétent sur la rénovation énergétique, c'est enrichir la relation de service, apporter une valeur ajoutée, donc fidéliser finalement une clientèle. Et puis, il ne faut pas oublier le sens au travail. Alors, il y a l'écologie, mais on sait aussi que les syndics, c'est des gens qui ont un attachement à l'architecture, à l'urbanité, etc. Donc, voilà, à travers la rénovation énergétique, ils participent aussi à la requalification.
C'est des projets au long cours.
Exactement.
Qui nous sortent du quotidien des urgences et de la gestion des dégâts des eaux, quoi.
Tout à fait.
Effectivement, c'est une motivation, une stimulation. J'enchaîne. je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Je vois le chrono. On a parlé de la rénovation énergétique. On parle de la gestion des copropriétés en difficulté. Pareil, est-ce qu'il y a un frein, une réticence ? Il est évident que les syndics ne se précipitent pas pour gérer ces immeubles-là.
Oui, tout à fait. Une majorité de syndics se déclarent assez réticents à s'engager dans ces copropriétés réputées complexes, peu rentables, parce qu'elles requièrent une activité chronophage et énergivore. Elles demandent une forte disponibilité, souvent de nombreuses urgences à gérer. La gestion de situations juridiques, techniques, financières complexes, des procédures administratives très lourdes, des travaux souvent très importants, un temps de pédagogie avec les copropriétaires qui peut être long et parfois difficile difficile, conflictuel, un important contentieux sur le recouvrement des charges. Je vous passe la liste, vous les connaissez mieux que moi. Mais on a aussi trouvé dans notre panel, à l'inverse, des syndics qui disent, qui expliquent les sources de motivation qu'ils ont à s'intéresser à ces copropriétés. D'abord, la valorisation de leur savoir-faire, puisque c'est vraiment des savoir-faire pointus, à la fois techniquement, administrativement, la comptabilité est particulièrement...
les mêmes leviers. Et
donc, ça recrée la posture d'un syndic sachant, qui vient être un vrai conseil pour la copropriété. La fierté, le goût d'affronter des dossiers complexes, la valorisation de compétences sociales et psychologiques, des relations de proximité avec les copropriétaires parfois. Certains ont pu faire part de des témoignages de reconnaissance qu'ils peuvent recevoir, contrairement à l'image qu'on a parfois quand on parle de ces copropriétés. La réponse, c'est ce qu'a dit Gaëtan, à une quête de sens, la valorisation de l'engagement social. Et puis aussi un espace de coopération un peu inhabituel avec les collectivités locales qui peut rendre un intérêt au fait de s'intéresser à ces copros. On y reviendra. Sur la question du modèle économique, il y a aussi eu des propos assez contrastés, puisque toute la question, c'est comment faire payer le surinvestissement requis par ces copropriétés qui, par ailleurs, sont plutôt plus modestes
et plus
fragiles.
Les syndics restant des sociétés commerciales avec une obligation de rentabilité.
Et courant toujours après le temps. Et là, on a eu des propos un peu différents et des débats sur le la bonne pratique tarifaire entre ceux qui disent il va bien falloir trouver un moyen de financer ce surcoût et donc de facturer ce surcoût, et d'autres qui disent on ne peut pas faire payer à ces copropriétés la réalité d'eux. Mmh. Donc là, il y a un vrai sujet sur le modèle économique et qui vient aussi, comme pour la rénovation, poser la question un peu contradictoire du modèle de rémunération via les travaux. Parce que c'est des copropriétés qui ont la particularité de générer d'importants montants de travaux, mais tout le temps de préparation, l'incertitude sur le fait que le syndic sera là quand les travaux seront réalisés, quand il pourra récupérer une forme de rémunération de son travail.
C'est une promesse de rémunération.
C'est une promesse de rémunération et particulièrement exacerbée sur ces copropriétés et donc peut poser problème. Avec aussi ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a des aides publiques au coût de cette gestion qui sont pas toujours connues par les syndics et peut-être pas toujours faciles à mobiliser et parfois qui arrivent pas au bon moment, pardon. Et puis, il y a aussi l'intérêt pouvoir être appuyé par des opérateurs. Souvent, la recherche avait pu mettre en évidence une sorte de contraste, de conflit entre le syndic et l'opérateur. Et là, ce qu'on a vu, c'est des syndics qui étaient plutôt contents de pouvoir s'appuyer sur les opérateurs de l'habitat dégradé, parce que ça les soulage d'une partie de certaines tâches et ils trouvent des synergies et des coopérations intéressantes.
Si l'opérateur respecte aussi le rôle et la place
Exactement.
Du syndic.
Et du coup, ça arrive à la question qui est posée par des décrets qu'on n'a pas encore vus, mais de cette question du syndic d'intérêt collectif qui est un peu dans le paysage. Et avec
Le décret n'est pas encore sorti.
Non,
un syndic d'intérêt
pas.
Collectif, je rappelle pour nos auditeurs, c'est une nouveauté, un ovni, le SIC, on l'appelle comme ça, C-I-S-S-I-C. Le décret n'est pas encore sorti, je vous laisse dire un mot.
Non, mais justement, on a interrogé les syndics sur ce sujet. Il y avait d'un côté l'idée que ça permettait de manifester que l'administrateur judiciaire ne suffit pas et qu'il ne peut pas prendre les fonctions et les savoir-faire de gestion du syndic. Donc, de ce point de vue, remettre le syndic dans l'équation, ça leur paraissait une bonne chose. De l'autre côté, il y avait une forme de méfiance sur les labellisations qui sonnent à la fois comme un manque de confiance vis-à-vis des syndics classiques et puis qui ne leur semble pas la manière dont les copropriétés leur arrivent, puisque ça vient plutôt par un effet de réputation, de bonne pratique. Ça se sait qu'un syndic a une capacité, une spécialisation sur ses copropriétés. Ce n'est pas forcément le label qui viendra faire venir à eux des copropriétés. L'enjeu sera dans le détail du décret. S'il permet une meilleure prise en compte des spécificités de gestion de la copropriété et créer un cadre facilitant leur accompagnement par des syndics aguerris, pourquoi pas. Par contre, il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle procédure chronophage. Mais l'intérêt, c'est de remontrer que si on fait venir le syndic plutôt que l'administration judiciaire, on protège davantage les organes de gouvernance de la copropriété. Donc là, il y a quand même un gain possible.
Alors, ça nous permet de faire l'ouverture et la conclusion sur les pouvoirs publics, la relation syndic-pouvoir public. Le SIC, c'est un peu ça. Hein. On voit que les pouvoirs publics, ça y est, s'intéressent aux syndics et ont besoin de nous. Va falloir juste trouver la bonne formule, Gaëtan.
Ouais, ce qu'on a conclu un peu dans ce rapport, c'est sur un paradoxe entre le fait que, effectivement, les syndics, ils se sentent vraiment acteurs de leur territoire. Cette gestion de proximité dont parlait Anne-Claire, cet attachement aussi au patrimoine bâti, etc. Et en même temps, ils ont très peu de relations avec les collectivités locales. Alors, un peu plus quand ils sont spécialisés sur l'habitat dégradé, mais on va dire que dans la majorité de notre échantillon, les relations étaient très éparses. Et donc voilà, nous pour nous, si on veut, si les pouvoirs publics au niveau national veulent impliquer davantage les syndics vis-à-vis d'enjeux de politique publique que sont la rénovation énergétique, les copro en difficulté, ça passe par un travail sur les relations avec les collectivités locales, et on a dégagé plusieurs pistes de réflexion. L'une d'entre elles, c'est tout simplement de développer l'interconnaissance entre les cabinets et les services de la collectivité, parce qu'en gros, ils se parlent que quand il y a un problème, alors qu'il faudrait animer cette relation pour qu'il y ait une confiance qui se mette en place, faciliter les collaborations.
L'entretenir.
Voilà, l'entretenir, qu'ils se connaissent, en fait, pour mieux travailler ensemble. Il y a la question aussi de la formation ou de l'information des copropriétaires, notamment des primo-accédants. Les syndics se plaignent à juste titre que les primo-accédants n'ont pas toujours bien conscience de la notion de partie commune. Et derrière, bah évidemment, ça engendre des difficultés qui vont retomber aussi sur la collectivité. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire sur comment, quand on va
la pédagogie.
Exactement. Et puis, les collectivités, elles ont aussi des responsabilités au niveau du développement économique, de l'emploi local. Or, on manque de bras dans les copropriétés. Hein, et donc là, il y a peut-être quelque chose à faire sur les formations, qu'elles soient initiales, continues au niveau local, amener des gens à travailler dans ce domaine-là. Et puis peut-être un dernier point, c'est reconnaître véritablement les syndics comme des acteurs du territoire et donc les amener à participer à la construction des politiques publiques, les consulter sur les choix qui sont faits, et puis les valoriser publiquement pour leur rôle là-dessus. Voilà quelques pistes de réflexion.
Mais effectivement, vu la taille des micro-syndics, c'est aussi peut-être là qu'est la difficulté. Mais en tout cas, ces bonnes idées sont sur la table et on les partage. Et j'espère que nos auditeurs les ont appréciées. Je vous remercie. Je rappelle Anne-Claire Davy, vous êtes chargée d'études à l'Institut Paris Région Département Habitat et Société. Gaëtan Brispierre, sociologue spécialisé transition énergétique. Je remercie tous nos auditeurs. C'était la dernière de Millième dans ce format-là. Vous nous retrouverez pour ces interviews avec des beaux invités sur la copropriété dans un nouveau format. Mais je vous laisse la surprise. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Mille Millième, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.